This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for French, November 2024.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale de Français, novembre 2024.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de francés, novembre 2024.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texte A. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions.
Vous allez entendre Noémie parler de la charge mentale avec son professeur devant sa classe.
Chut! Silence! Qui est prêt?
Moi, je suis prête.
Noémie, c'est ça?
Oui, Noémie Cappelle. C-A-P-E-L-L-E.
Très bien, merci. Alors Noémie, de quoi vas-tu nous parler?
J'ai choisi de parler de la charge mentale.
La charge mentale. D'accord. Et pourquoi tu as décidé de nous parler de la charge mentale?
Parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde, les hommes comme les femmes. Alors je pense que c'est important d'en parler.
Et pourquoi c'est important d'en parler?
Eh bien, pour que tout le monde puisse prendre conscience de ce problème, pour que les mentalités changent et que notre société devienne plus équitable.
D'accord. Et quel type de recherche tu as effectué pour écrire ton discours?
J'ai lu tous les articles que je pouvais trouver sur la charge mentale, mais j'ai particulièrement été inspirée par une bande dessinée publiée sur les réseaux sociaux par une dessinatrice qui s'appelle Emma.
Très bien, Noémie. Viens ici. On t'écoute.
Alors, la charge mentale, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un terme de 1984 qui est revenu à la mode récemment. La charge mentale, c'est une expression synonyme de travail, de gestion constante, dans la vie professionnelle comme dans la vie familiale. Dans le cadre de la vie familiale, c'est ce travail invisible qui demande de penser à tout, tout le temps, pour assurer le bon fonctionnement du foyer. Ce travail invisible qui demande du temps et de l'énergie et qui fatigue principalement les femmes. Un exemple? Chez vous, monsieur, qui fait la vaisselle?
Chez moi? Je fais la vaisselle presque autant que ma femme.
Et est-ce que votre femme doit vous demander de faire la vaisselle?
Oui, ça arrive.
Merci pour votre honnêteté. La charge mentale, c'est toujours penser à tout. Au ménage, à la lessive, au cadeau d'anniversaire des grands-parents. Et la liste continue. Je l'ai observé chez ma mère qui rappelle à mon père qu'il faut sortir les poubelles. Tous les jeudis, depuis des années. Mentalement, tout ça est très fatigant. Mais alors pourquoi, dans un couple, tout ce travail n'est-il pas juste divisé par deux? On n'est plus dans les années 50. Les hommes veulent bien faire la vaisselle et passer l'aspirateur. Mais ils ont souvent besoin d'un rappel de leur femme, qui doivent donc, encore une fois, se souvenir de tout. Ce qui est épuisant. Quand un couple décide d'avoir un enfant, ce phénomène devient flagrant. La femme devient alors, sans le vouloir, le chef de projet, qui doit penser à tout organiser. En bref, l'égalité dans un couple ne peut être atteinte que si les deux personnes se sentent toutes les deux aussi responsables l'une de l'autre, de leur maison et de leurs enfants.
Maintenant, vous avez 2 minutes avant d'entendre l'enregistrement pour la deuxième et dernière fois.
Silence. Qui est prêt?
Moi. Je suis prête.
Noémie. C'est ça?
Oui. Noémie Capelle. C-A-P-E-L-L-E.
Très bien. Merci. Alors, Noémie, de quoi vas-tu nous parler?
J'ai choisi de parler de la charge mentale.
La charge mentale. D'accord. Et pourquoi tu as décidé de nous parler de la charge mentale?
Parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde, les hommes comme les femmes. Alors je pense que c'est important d'en parler.
Et pourquoi c'est important d'en parler?
Eh bien, pour que tout le monde puisse prendre conscience de ce problème, pour que les mentalités changent et que notre société devienne plus équitable.
D'accord. Et quel type de recherche tu as effectué pour écrire ton discours?
J'ai lu tous les articles que je pouvais trouver sur la charge mentale, mais j'ai particulièrement été inspirée par une bande dessinée publiée sur les réseaux sociaux par une dessinatrice qui s'appelle Emma.
Très bien, Noémie. Viens ici. On t'écoute.
Alors, la charge mentale, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un terme de 1984 qui est revenu à la mode récemment. La charge mentale, c'est une expression synonyme de travail, de gestion constante, dans la vie professionnelle comme dans la vie familiale. Dans le cadre de la vie familiale, c'est ce travail invisible qui demande de penser à tout, tout le temps, pour assurer le bon fonctionnement du foyer. Ce travail invisible qui demande du temps et de l'énergie et qui fatigue principalement les femmes. Un exemple? Chez vous, monsieur, qui fait la vaisselle?
Chez moi? Je fais la vaisselle presque autant que ma femme.
Et est-ce que votre femme doit vous demander de faire la vaisselle?
Oui, ça arrive.
Merci pour votre honnêteté. La charge mentale, c'est toujours penser à tout. Au ménage, à la lessive, au cadeau d'anniversaire des grands-parents. Et la liste continue. Je l'ai observé chez ma mère qui rappelle à mon père qu'il faut sortir les poubelles. Tous les jeudis, depuis des années. Mentalement, tout ça est très fatigant. Mais alors pourquoi, dans un couple, tout ce travail n'est-il pas juste divisé par deux? On n'est plus dans les années 50. Les hommes veulent bien faire la vaisselle et passer l'aspirateur. Mais ils ont souvent besoin d'un rappel de leur femme, qui doivent donc, encore une fois, se souvenir de tout. Ce qui est épuisant. Quand un couple décide d'avoir un enfant, ce phénomène devient flagrant. La femme devient alors, sans le vouloir, le chef de projet, qui doit penser à tout organiser. En bref, l'égalité dans un couple ne peut être atteinte que si les deux personnes se sentent toutes les deux aussi responsables l'une de l'autre, de leur maison et de leurs enfants.
Maintenant, vous avez 2 minutes et 30 secondes pour finir de répondre aux questions. texte B. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions.
Vous allez entendre Gabrielle interviewer Sabrina, la fondatrice de Medicovni, une entreprise qui livre des médicaments par drone.
Sabrina, merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie.
Sabrina, vous êtes la fondatrice de Medicovni. Une entreprise qui utilise des drones pour distribuer des médicaments.
Oui, c'est bien ça.
Alors, avant de commencer, je tenais à vous dire que je pense que ce que vous faites est incroyable. C'est une idée toute simple, mais révolutionnaire.
Révolutionnaire, c'est un grand mot. Vous savez, de plus en plus d'entreprises font la même chose que nous. mais je vous remercie, c'est gentil.
Sabrina, je trouve que votre CV est surprenant. En fait, avant de créer Medicovni, vous faisiez des crêpes, c'est ça?
Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, ça peut paraître un peu étrange. Même moi, ça me surprend. Mais oui, avant Medicovni, j'avais une petite crêperie.
Mais alors, comment passe-t-on de la cuisine au drone?
Eh bien, je cherchais autre chose, mais je voulais continuer à être ma propre patronne parce que ça me permettait de faire ce que je voulais, quand je le voulais. Ce qui, pour moi, n'a pas de prix.
Je suis tout à fait d'accord. Pour moi non plus.
Et puis, un jour, un client m'a demandé si j'avais déjà pensé à livrer mes crêpes par drone.
Quelle idée ridicule!
Sur le coup, ça m'a fait rire. Qui veut manger des crêpes froides? Mais c'est grâce à cette conversation que j'ai décidé d'acheter mon premier drone, juste pour apprendre.
C'est plus difficile que ça en a l'air. Piloter, c'est un art.
Franchement, j'ai appris rapidement, mais à chaque vol, je me disais, si seulement je pouvais livrer quelque chose d'important à des gens qui en ont vraiment besoin. L'idée de livrer des médicaments m'est venue ainsi. Et c'est comme ça qu'est né Medicovni.
Fascinant! On va faire une petite pause et on revient tout de suite après la publicité. Nous retrouvons Sabrina, fondatrice de Medicovni. Alors Sabrina, pouvez-vous nous expliquer comment ça marche?
Alors, c'est très simple. Chez Medicovni, nous livrons des médicaments exclusivement dans des zones isolées. Nous aidons principalement des villages auxquels on aurait du mal à accéder par la route.
D'accord. Et alors, comment êtes-vous contactée?
Généralement, c'est l'équipe médicale présente dans ces villages qui passe commande par téléphone.
Et les médicaments? Où se trouvent-ils?
Nous avons des centres de distribution de matériel médical. Quand nos employés reçoivent une commande, ils placent les produits commandés dans un paquet qui est ensuite attaché au drone.
Des drones qui sont plutôt grands?
En général, les drones que nous utilisons mesurent 3,30 m et pèsent environ 20 kg et ils peuvent transporter jusqu'à 10 kg de produits.
Ils sont gigantesques. Et pour finir, selon vous, quel est le plus grand avantage de ce type de livraison?
Sans hésiter, c'est le temps gagné.
Comment ça?
Eh bien, par exemple, pour accéder à l'un des villages où nous livrons des médicaments régulièrement, il faudrait des heures. Mais avec un drone, il ne faut que 20 minutes. La livraison par drone est une solution efficace et économique.
Merci beaucoup, Sabrina. Et bonne continuation.
Maintenant, vous avez 2 minutes avant d'entendre l'enregistrement pour la deuxième et dernière fois.
Sabrina, merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie.
Sabrina, vous êtes la fondatrice de Medic OVNI, une entreprise qui utilise des drones pour distribuer des médicaments.
Oui, c'est bien ça.
Alors, avant de commencer, je tenais à vous dire que je pense que ce que vous faites est incroyable. C'est une idée toute simple, mais révolutionnaire.
Révolutionnaire, c'est un grand mot. Vous savez, de plus en plus d'entreprises font la même chose que nous. Mais je vous remercie, c'est gentil.
Sabrina, je trouve que votre CV est surprenant. En fait, avant de créer Medic OVNI, vous faisiez des crêpes, c'est ça?
Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, ça peut paraître un peu étrange. Même moi, ça me surprend. Mais oui, avant Medic OVNI, j'avais une petite crêperie.
Mais alors, comment passe-t-on de la cuisine au drone?
Eh bien, je cherchais autre chose, mais je voulais continuer à être ma propre patronne parce que ça me permettait de faire ce que je voulais, quand je le voulais. Ce qui, pour moi, n'a pas de prix.
Je suis tout à fait d'accord. Pour moi non plus.
Et puis, un jour, un client m'a demandé si j'avais déjà pensé à livrer mes crêpes par drone.
Quelle idée ridicule!
Sur le coup, ça m'a fait rire. Qui veut manger des crêpes froides? Mais c'est grâce à cette conversation que j'ai décidé d'acheter mon premier drone, juste pour apprendre.
C'est plus difficile que ça en a l'air. Piloter, c'est un art.
Franchement, j'ai appris rapidement, mais à chaque vol, je me disais, si seulement je pouvais livrer quelque chose d'important à des gens qui en ont vraiment besoin. L'idée de livrer des médicaments m'est venue ainsi. Et c'est comme ça qu'est né Medic OVNI.
Fascinant! On va faire une petite pause et on revient tout de suite après la publicité. Nous retrouvons Sabrina, fondatrice de Medic OVNI. Alors Sabrina, pouvez-vous nous expliquer comment ça marche?
Alors, c'est très simple. Chez Medic OVNI, nous livrons des médicaments exclusivement dans des zones isolées. Nous aidons principalement des villages auxquels on aurait du mal à accéder par la route.
D'accord. Et alors, comment êtes-vous contactée?
Généralement, c'est l'équipe médicale présente dans ces villages qui passe commande par téléphone.
Et les médicaments? Où se trouvent-ils?
Nous avons des centres de distribution de matériel médical. Quand nos employés reçoivent une commande, ils placent les produits commandés dans un paquet qui est ensuite attaché au drone.
Des drones qui sont plutôt grands?
En général, les drones que nous utilisons mesurent 3,30 m et pèsent environ 20 kg et ils peuvent transporter jusqu'à 10 kg de produits.
Ils sont gigantesques. Et pour finir, selon vous, quel est le plus grand avantage de ce type de livraison?
Sans hésiter, c'est le temps gagné.
Comment ça?
Eh bien, par exemple, pour accéder à l'un des villages où nous livrons des médicaments régulièrement, il faudrait des heures. Mais avec un drone, il ne faut que 20 minutes. La livraison par drone est une solution efficace et économique.
Merci beaucoup, Sabrina. Et bonne continuation.
Maintenant, vous avez 2 minutes et 30 secondes pour finir de répondre aux questions. Texte C. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions.
Vous allez entendre Rémi parler de bénévolat dans son podcast.
Salut les gars! Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast sur le thème du bénévolat. La semaine dernière, j'ai parlé un peu de ma propre expérience en tant que bénévole. Et vous m'avez posé beaucoup de questions. Cette semaine, je vais essayer de répondre à quelques-unes. Ok, première question qui vient de Léna à Toulouse. C'était quoi ta première expérience en tant que bénévole? Ma première expérience comme bénévole, c'était dans un refuge animalier. Je viens d'une famille qui adore les animaux. chez nous, il y en avait toujours plein. Des chats, des chiens, des hamsters. En fait, on habitait juste à côté d'un refuge et du coup, avec ma grande sœur, on y passait tout notre temps et quand on revenait à la maison, on suppliait nos parents pour qu'ils adoptent toujours plus. Bref, un jour, ils en ont eu marre qu'on demande de nouveaux animaux chaque semaine et ils ont décidé qu'on était assez grand pour aller aider au refuge. Je devais avoir 14 ans et donc, à partir de ce moment-là, après le collège, deux fois par semaine, on allait brosser les chats, nettoyer les cages, lire des livres aux chiens. Oui, c'est vrai, j'ai lu des livres aux chiens. J'imagine que vous vous demandez pourquoi. En fait, c'est une façon d'aider les chiens qui sont anxieux. On s'asseyait près d'eux et on leur lisait des livres. Alors, quels livres ? Un peu de tout, mais généralement des histoires pour enfants. Le but, c'est pas qu'ils apprennent la morale d'une histoire, hein. C'est juste qu'ils s'habituent à entendre des voix et qu'ils deviennent de plus en plus à l'aise avec les gens, pour qu'ensuite, ils puissent être adoptés plus facilement. Et ça marche vraiment. Bref, c'était très sympa. Mais maintenant, c'est fini le refuge pour moi. J'y ai travaillé jusqu'au bac et après, j'ai décidé d'essayer autre chose. J'ai d'autres questions, mais d'abord, on fait une petite pause publicitaire. Avant la pause, je vous parlais de ma première expérience avec le bénévolat. Ce qui nous amène justement à la prochaine question qui nous vient de David de Cotonou. Comment as-tu choisi l'association dans laquelle tu es bénévole en ce moment ? En fait, tout simplement en essayant plusieurs associations. Juste pour quelques heures. J'essayais plein de trucs différents, mais là, en ce moment, je distribue des repas aux sans-abri. Et cette association, je l'ai découverte grâce à un pote à moi qui m'avait proposé de l'accompagner l'hiver dernier. Et j'ai vraiment apprécié l'expérience. Tout de suite, dès la première sortie, je me suis senti utile. C'était vraiment une expérience gratifiante. Je rencontre des personnes incroyables et à chaque fois, j'apprends énormément. Dernière question qui nous vient de Jenny à Bordeaux. Quels sont les trois conseils que tu donnerais à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient devenir bénévoles, mais ne savent pas par où commencer ? Alors, évidemment, moi, j'encourage tout le monde à se lancer. Peu importe vos capacités. On peut tous aider. Si je devais donner trois conseils, le premier, ce serait de trouver la cause à laquelle vous voulez vous consacrer. Si vous pouvez identifier la cause qui vous tient à cœur, déjà, c'est un bon début. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'aider une asso près de chez soi. Pas besoin de traverser l'Atlantique pour se sentir utile. Renseignez-vous sur les associations locales. Ok, et mon troisième conseil, quand vous avez trouvé une association qui vous plaît, c'est d'y aller en groupe. C'est toujours plus motivant. Et puis, le bénévolat, c'est avant tout une expérience humaine hyper enrichissante, alors n'attendez pas, engagez-vous. Merci de m'avoir écouté. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode.
Maintenant, vous avez 2 minutes avant d'entendre l'enregistrement pour la deuxième et dernière fois.
Salut les gars! Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast sur le thème du bénévolat. La semaine dernière, j'ai parlé un peu de ma propre expérience en tant que bénévole et vous m'avez posé beaucoup de questions. Cette semaine, je vais essayer de répondre à quelques-unes. Ok, première question qui vient de Léna à Toulouse. C'était quoi ta première expérience en tant que bénévole? Ma première expérience comme bénévole, c'était dans un refuge animalier. Je viens d'une famille qui adore les animaux. Chez nous, il y en avait toujours plein. Des chats, des chiens, des hamsters. En fait, on habitait juste à côté d'un refuge et du coup, avec ma grande sœur, on y passait tout notre temps et quand on revenait à la maison, on suppliait nos parents pour qu'ils adoptent toujours plus. Bref, un jour, ils en ont eu marre qu'on demande de nouveaux animaux chaque semaine et ils ont décidé qu'on était assez grand pour aller aider au refuge. Je devais avoir 14 ans et donc, à partir de ce moment-là, après le collège, deux fois par semaine, on allait brosser les chats, nettoyer les cages, lire des livres aux chiens. Oui, c'est vrai, j'ai lu des livres aux chiens. J'imagine que vous vous demandez pourquoi. En fait, c'est une façon d'aider les chiens qui sont anxieux. On s'asseyait près d'eux et on leur lisait des livres. Alors, quels livres? Un peu de tout, mais généralement des histoires pour enfants. Le but, c'est pas qu'ils apprennent la morale d'une histoire, hein. C'est juste qu'ils s'habituent à entendre des voix et qu'ils deviennent de plus en plus à l'aise avec les gens, pour qu'ensuite, ils puissent être adoptés plus facilement. Et ça marche vraiment. Bref, c'était très sympa. Mais maintenant, c'est fini le refuge pour moi. J'y ai travaillé jusqu'au bac et après, j'ai décidé d'essayer autre chose. J'ai d'autres questions, mais d'abord, on fait une petite pause publicitaire. Avant la pause, je vous parlais de ma première expérience avec le bénévolat. Ce qui nous amène justement à la prochaine question qui nous vient de David de Cotonou. Comment as-tu choisi l'association dans laquelle tu es bénévole en ce moment? Tout simplement en essayant plusieurs associations. Juste pour quelques heures. J'essayais plein de trucs différents, mais là, en ce moment, je distribue des repas aux sans-abri. Et cette association, je l'ai découverte grâce à un pote à moi qui m'avait proposé de l'accompagner l'hiver dernier. Et j'ai vraiment apprécié l'expérience. Tout de suite, dès la première sortie, je me suis senti utile. C'était vraiment une expérience gratifiante. Je rencontre des personnes incroyables et à chaque fois, j'apprends énormément. Dernière question qui nous vient de Jenny à Bordeaux. Quels sont les trois conseils que tu donnerais à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient devenir bénévoles, mais ne savent pas par où commencer? Alors, évidemment, moi, j'encourage tout le monde à se lancer. Peu importe vos capacités. On peut tous aider. Si je devais donner trois conseils, le premier, ce serait de trouver la cause à laquelle vous voulez vous consacrer. Si vous pouvez identifier la cause qui vous tient à cœur, déjà, c'est un bon début. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'aider une asso près de chez soi. Pas besoin de traverser l'Atlantique pour se sentir utile. Renseignez-vous sur les associations locales. Ok, et mon troisième conseil, quand vous avez trouvé une association qui vous plaît, c'est d'y aller en groupe. C'est toujours plus motivant. Et puis, le bénévolat, c'est avant tout une expérience humaine hyper enrichissante, alors n'attendez pas, engagez-vous. Merci de m'avoir écouté. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode.
Maintenant, vous avez le reste du temps pour finir de répondre aux questions.